Chapitre 5. Un cri qui vient du ciel. À ces dernières paroles, la procession se remit en marche, et en vérité, n'étaient les derniers soldats quichois qui avaient emporté là avec leurs fusils un fâcheux anachronisme, on eût pu penser que rien n'était changé dans la plaine de Cuzco depuis plus de 400 ans. Raymond avait enfin pu se dégager, mais partout il avait trouvé la foule, et il désespérait de se faire jour jusqu'à Marie-Thérèse, quand il rencontra le lugubre vieillard qui l'avait conduit à la colline du singe qui danse. « Que cherches-tu, un endroit pour voir ?» lui demanda Orellana. « Viens avec moi, je te montrerai ma fille. Je connais le Cuzco mieux que les Incas. Viens, viens !» Encore une fois, Raymond se laissa conduire par le fou. Jusqu'alors, il n'avait eu qu'à se louer de ses services. Il paraissait être un précieux guide, et comme ils avaient tous deux la même idée fixe, celle de se rapprocher de Marie-Thérèse, le jeune homme s'abandonna à Orellana. Le vieillard le fit entrer dans la ville par les bords du ravin Untané, que traversent encore les vieux ponts bâtis par les conquistadors. Ils furent hâtivement la foule par des chemins détournés. Ainsi durent-ils faire le tour du prodigieux mur. Atuarumioc, qui veut dire « fait d'une grande pierre », qui ne craint aucune comparaison au monde pour la masse et la solidité. Ils passèrent près du Calcaurpata, que la tradition dit avoir été le palais de Manco. Paca lui-même, le premier roi Inca, le fondateur du Cuzco. Puis ils redescendirent vers la principale Pacha, la Huacalilapata, disaient les Incas jadis, disent encore les Quichois aujourd'hui. Pour arriver, Orellana fit traverser à Raymond le palais des Vierges du Soleil, à Kawasi, où les filles de la maison royale étaient dès l'âge de 8 ans confiées aux mamas conas, littéralement mère institutrice. Là, 1500 jeunes filles, quoique Vierges du Soleil et vouées à son culte, étaient fiancées à l'Inca roi, et lorsqu'elles arrivaient à l'âge nubile, les plus belles étaient transférées au sérail royal. Orellana, d'un geste et d'une parole qui lui étaient coutumiers, montrait ses murs, ses chambres, ses cours, et donnait des explications. C'était le métier qui le faisait vivre. Raymond le poussait devant lui avec colère, mais le vieillard ne s'émouvait pas pour si peu, et disait « Nous avons le temps, je te promets que tu verras ma fille de si près que tu pourras lui parler. Arrête-toi et écoute la voix du passé et le chant des joueurs de Kenya. La tête du cortège n'a certainement pas atteint encore San Domingo, qui a été élevé sur les pierres même du Temple du Soleil. N'ai jamais vu un visiteur aussi peu curieux que toi. Sache que ce cloître antique des Vierges du Soleil est toujours habité par la vertu et par la prière. Les chrétiens en ont fait un couvent sous les auspices de Santa Catalina. » Raymond s'enfuit, courut au bruit que faisait le cortège en se rapprochant. Mais l'autre courait derrière lui en criant « Paie-moi au moins, paie-moi, donne-moi mon dû !» Raymond lui jeta une poignée de centavos que le vieillard ramassa. Descendant toujours vers la plaza principale, animé par la fureur d'avoir perdu son temps avec le vieillard évocateur du passé, il se heurta à nouveau au dernier rang de la foule indienne, et il fut très heureux de retrouver Orellana, une fois de plus, qui le tirait par un pan de son punch. « Te voilà bien avancé !» lui disait le vieillard. « Tu ferais bien de rester avec moi. Je connais un petit couloir de la nuit qui nous conduira au soleil sur la plus haute pierre de l'ancien temple élevé au page du soleil, qui est la divine Vénus, qu'ils appellent Kaska, ou le jeune homme aux cheveux longs et bouclés. » Orellana avait pris la main de Raymond avec autorité et il le fit descendre dans une cave où ils trouvèrent un escalier qu'ils gravirent et au bout duquel ils furent en effet en plein soleil et au sommet de la place centrale. Ils étaient certainement les mieux placés pour voir la cérémonie et le cortège et le peuple qui accouraient car toutes les rues aboutissaient à cette place comme les rayons au moyeu d'un char. Ils étaient sur l'une des plus hautes pierres de ces temples qui entouraient jadis le temple du soleil, ruine consacrée à la lune, aux armées du ciel qui sont les étoiles, l'arc-en-ciel, à l'éclair, au tonnerre, murailles toujours debout, mais temples changés en boutiques, en ateliers, en écuries. Penché à tomber, s'il n'avait pas été retenu par le fou, plus sage que lui, Raymond regardait. Mais il ne voyait pas encore les porteurs de litière, le trône d'or où Marie-Thérèse, à côté de la momie du roi, avait déjà une attitude de momie. Le commencement du cortège fit le tour de la place dans l'ordre qui avait été dit à la sortie de Sacsayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayhuayh qui tout à coup se prosterna avec de grands cris et d'immenses gémissements. La litière d'or venait d'apparaître, et le roi Huayna Capac revoyait pour la première fois depuis bien des siècles le centre du monde, l'ombilique dont il avait été le maître, la place sainte, la Walcaipata où se dressaient les piliers des équinoxes devant le temple du soleil. La piété autour de cette grande ombre souveraine et de ce prodigieux souvenir revivant fit s'agenouiller tout ce peuple qui en oublia sa haine pour l'étrangère, pour la Koya immobile, avec dans ses bras son petit étranger. La litière fut amenée au centre même de la place. Alors tout le peuple se releva avec une clameur d'allégresse, car autour de la litière, les caciques et tous les chefs et tous les nobles et les amputas qui sont les sages se tinrent par la main et commencèrent à tourner, à danser en rond comme autrefois, quand ils tenaient chacun un anneau de la chaîne d'or et qu'ils dansaient la danse de la chaîne. Mais ils n'avaient plus la chaîne, car chacun sait qu'en apprenant la mort d'Atahualpa, les nobles de Cuzco s'en furent jeter cette chaîne au plus profond du lac Titicaca pour qu'elle ne tombât point aux mains du vainqueur, puisqu'elle ne pouvait plus servir à la rançon du vaincu. La danse sacrée de la chaîne d'or déroulait rythmiquement ses anneaux quand un événement inattendu vint en troubler la belle harmonie. Un cri, un appel retentissant sembla descendre du ciel. « Recuerda, souviens-toi. » Ce mot espagnol, qui avait été le signal de la tentative d'enlèvement de Marie-Thérèse dans la maison du serpent, fit tressaillir la Koya, qui, sur son trône, avait paru jusqu'alors aussi morte que son compagnon le roi mort. L'enfant qu'elle tenait dans ses bras releva la tête, et tous deux, maintenant, les yeux au ciel, cherchaient d'où pouvait bien leur venir cette parole d'espoir. « Oh, mon Dieu !» murmuraient les lèvres tremblantes de Marie-Thérèse. « N'as-tu pas reconnu la voix de Raymond, Cristobal ?»«
Oui, oui !» dit l'enfant, « je l'ai reconnu. C'est Raymond, il vient nous sauver !»
Où était-il ? Où se cachait-il ? La voix venait d'en haut. Ils regardèrent vers les étages de pierre où s'étaient hissés les groupes mouvants des Indiens. Mais comment le reconnaître parmi cette foule ? Comment le voir ? Comment savoir d'où viendrait le salut ? Car maintenant qu'ils avaient entendu sa voix, ils ne désespéraient plus tout à fait. Et ils firent ainsi du regard le tour des pierres, mais ne le virent point. Alors le mot retentit de nouveau au-dessus de leur tête, et si fort qu'il fut entendu de toute la place et des rues avoisinantes, « Ricuerda !» La fête en fut arrêtée, la danse suspendue. Toutes les têtes étaient tournées vers le ciel, et un murmure hostile commençait de monter de cette foule qu'un mot espagnol faisait sortir de son rêve de renaissance et de liberté. « Pourquoi, Ricuerda, souviens-toi ? Mais de quoi donc devait se souvenir cette foule ? Qu'elle était esclave ? Et que ces réjouissances qui essayaient de faire revivre un passé aboli ne dureraient que l'espace d'un jour ? Et que le soleil de demain, oubliant le soleil d'aujourd'hui, éclairerait à nouveau sa servitude ? On vit Marie-Thérèse se dresser sur son trône d'or avec le petit d'étranger dans les bras. Elle revivait à ce cri qui apportait le trouble dans les yeux sacrés. Et tous, levant plus haut leurs regards, aperçurent enfin, sur la plus haute pierre de l'azur, une silhouette penchée qui tendait la main vers la Coya et lui criait « Marie-Thérèse ! Marie-Thérèse !» Et la Coya cria à son tour « Raymond !» Alors tous comprirent qu'il y avait là-haut quelqu'un qui n'était point de leur race et qui était venu leur prendre pour l'emporter avec lui, l'âme de la Coya. Dans le dédale des couloirs de la nuit. Ils auraient voulu qu'elle fût déjà morte. C'était un sacrilège, mais n'appartenait-elle point déjà au Dieu ? Celui-là aussi qui avait crié méritait la mort. Il eut un grand mouvement, une ruée le long des murs, une escalade des pierres des ruines des temples, une course furieuse à l'étranger, aux faux indiens. Cependant que la litière d'or avec son roi mort et sa reine qui allait mourir était emportée avec rapidité par les veilleurs du sacrifice, les âmes hautas, et que les airs retentissaient des mille cris de « Muera la Coya! Muera la Coya !» Marie-Thérèse avait refermé les yeux, emportant dans la mort le baiser de Raymond, qui pour lui avoir envoyé ce baiser-là allait peut-être lui aussi mourir. Le fou Orellana avait dit à Raymond « Tu es fou !» quand il l'avait vu se pencher, quand il avait entendu crier et appeler la Coya, et quand la Coya, debout sur son trône, avait levé sur son front de lumière, il avait dit « Mais tu connais donc ma fille ?» La colère populaire les enveloppait, montait vers eux, accourait. Il eut toutes les peines du monde à secouer Raymond de l'étrange torpeur qui le tenait là, sur sa pierre comme s'il avait été transformé en statue de pierre depuis qu'elle avait échangé ce baiser suprême avec la Coya. Enfin, il l'entraîna, le rendit au trou dont il l'avait fait sortir, le replongea dans le couloir de la nuit dont il connaissait seul les détours, et le fit marcher longtemps, longtemps dans la nuit éclairée, çà et là par des rayons caillerés ou ronds, ou aigus, qui descendaient de la terre supérieure entre les pierres millénaires. De temps à autre, il lui disait « Ici, au-dessus de nos têtes, il y a tel temple, tel palais. Tiens, en ce moment, nous sommes sous le Yakawasi, qu'on appelle aussi la maison du serpent. » Raymond l'arrêta. « Ils y ont peut-être conduit l'épouse du soleil ?»« Non, non. Maintenant, les étapes sont finies, crois-moi. L'épouse du soleil est partie pour le temple de la mort. » « Et nous, où allons-nous? Où nous conduis-tu ? Au temple de la mort !» Alors Raymond le suivit sans plus rien demander. Cependant, il s'étonna, quand il sortit du souterrain, de se retrouver en pleine campagne. « Mais où donc est le temple de la mort » dit-il. « Ah, le temple de la mort !» répondit l'autre. « Et dans l'île Titicaca, on ne craint rien. Nous arriverons avant eux. Sainte patientia et patience. Dans un des tombeaux du bord de la route, ils louèrent des chevaux qui les conduisirent à Sicuani, où ils prirent le train, et par l'embranchement de Juliaca se dirigèrent vers Puno sur les bords du lac. Tout le long du chemin, Orellana ne cessait de parler à Raymond, lui donnait des détails sur la contrée qu'ils traversaient et pour la cérémonie qu'ils allaient voir. Une cérémonie à laquelle n'a jamais assisté aucun étranger. Mais lui, Orellana, ne demandait la permission de personne. Et puisqu'on allait marier sa fille au soleil, c'était bien le moins qu'il assistât aux noces. D'autant plus qu'il avait tout préparé pour cela. Ah, il avait mis du temps à trouver le temple de la mort, car ce temple était bien caché, mais avec de la patience de plusieurs années, on arrive à tout quand on le veut bien. Il n'y avait pas une conduite désertée par les eaux sous la terre, pas une mine d'or abandonnée qu'il ne connût, et dans lesquels il n'eût pu se promener les yeux fermés. Ah, que de fortune sous la terre, une fortune égale à toutes les fortunes du monde. Évidemment, les Incas avaient dû prendre tout leur or quelque part, et il en restait à prendre. Le jour où un ingénieur intelligent s'en mêlerait, sourire amer du jeune ingénieur qui ne pense plus du tout à son fameux siphon, il n'y aurait qu'à se baisser, simplement. Mais lui, Orellana, s'était toujours moqué de toute la fortune du monde, et il n'aimait au monde que sa fille, sa Maria Cristina, que les Indiens avaient conduite dans le temple de la mort, et c'est le temple de la mort seule qu'il avait occupé pour y reprendre sa fille la prochaine fois qu'une pareille cérémonie recommencerait. Il avait attendu des années. Maintenant, tout était prêt. Entre nous, il serait bien heureux d'embrasser Maria Cristina pour la première fois depuis 10 ans. Ainsi divaguait-il, et ces divagations, Raymond les trouvait précieuses. Le jeune homme lui demanda, « Et eux, comment font-ils du Cusco au temple de la mort ?»«
T'occupe pas de cela, par les couloirs de la nuit, par les couloirs des montagnes de la nuit, par les couloirs du lac de la nuit. À propos, sais-tu pêcher à la ligne ?»
Raymond n'eut pas eu le temps de répondre à cette extraordinaire question, car le chef de train venait les chercher pour les inviter à voir danser la Samacuena dans le fourgon au bagage. Il fallut bien accepter l'invitation pour ne point se singulariser. Tous les voyageurs s'y rendaient. Ils trouvèrent là, réunis, une société d'indigènes, dansant, chantant et jouant de la guitare et buvant sec. À chaque arrêt du train, le chef de train, en signe de réjouissance pour les victoires de Garcia, faisait partir des croates dans les échos de la montagne, répétait joyeusement les détonations. Puis les quelques soldats quichois qui se trouvaient dans le train se donnèrent le plaisir de la chasse. En traversant les hauteurs, ils aperçurent de nombreux troupeaux de vigognes qui paissait tranquillement. De la plateforme de leur wagon, les soldats examinaient tous les mouvements des troupeaux errants et de temps en temps, épaulaient, envoyaient une balle à l'animal le plus rapproché. Une vigogne tomba. Aussitôt, le mécanicien serra les freins, donna le signal de l'arrêt et le chef de train courut ramasser lui-même la victime. Raymond, impatient, eût voulu monter sur la locomotive, conduire lui-même le convoi à toute vapeur. Mais Orellana le calma. «
Nous arriverons avant eux, tu verras.
On aura encore le temps de pêcher à la ligne, c'est sûr. Toute la nuit et tout un jour, je le crois. » Et il l'entraîna, pendant que danseurs et danseuses dépeçaient la vigogne auprès du poêle qui était installé dans leur wagon. La température s'était en effet considérablement abaissée. Ils étaient parvenus dans la région des neiges. Ils étaient à une altitude de plus de 14 000 pieds, presque au niveau du sommet du Mont Blanc. Raymond recommença à subir le mal des montagnes appelé dans le pays Soroche. Le sang lui coula par le nez et par les oreilles, et il tomba dans un état voisin du coma où il put oublier toutes ses douleurs morales. Il ne se retrouva aux prises avec son effroyable cauchemar que lorsqu'ils arrivèrent à Puno, qui est une cité sur les bords du lac. Là, il réclama d'Orellana, le temple de la mort, avec une énergie farouche. « Nous y allons !» lui répondit l'étrange vieillard. Mais il le fit d'abord passer sur la grande place, où étaient rangées une centaine de jeunes indiennes fort belles, aux jupes de couleur sombre et au corsage grand ouvert, comme l'exige la mode là-bas, et elles se tenaient accroupies en fil symétrique et vendaient des fruits et des légumes desséchés par le froid. « Ordinairement, elles sont 200 », fit remarquer Orellana. « Mais les poules rouges ont passé par ici et ont choisi les 100 plus belles pour la cérémonie. Oh, c'est ainsi tous les 10 ans. » Et il leur fit quelques achats avec l'argent de Raymond. Il se lesta également d'une gourde de pisco et ils sortirent de la ville. Ils arrivèrent sur le soir dans d'immenses marais d'où partaient à tire-d'aile des nuées d'oiseaux. Ils traversèrent ensuite une bruyère d'où s'enfuirent des lamas et des alpagas et enfin se trouvèrent en un certain endroit assez lugubre des rives du lac. Le lac Titicaca, dans sa cuvette de montagne, est le plus haut des lacs de la Terre. Les eaux, ce soir-là, en étaient sombres, lourdes et mortes. Mais un orage grondait dans le lointain, et bientôt toute la nature commença de s'animer. Les éclairs se succédèrent follement. La bourrasque fut dans son plein. Les vagues battirent furieusement le rivage, et toutes les montagnes d'alentour furent illuminées par le feu du ciel. La pluie tomba à flots. « Tout ceci est très bon, car nous aurons beau temps demain, » déclara Orellana. « En attendant, nous allons souper. » Il avait conduit le jeune homme sous un énorme monolithe taillé en forme de porte. Dans une niche de cette pierre formidable, il parvint à allumer du feu avec les taquina, qui sont des fientes desséchées de lama, lesquelles brûlent comme de la tourbe. Autour de ce feu, ils mangèrent un peu et se réchauffèrent à la gourde de pisco. Raymond sentit peu à peu sa tête s'apesantir et il se réveilla à l'aurore. Il trouva le vieillard qui veillait sur lui et qu'il avait paternellement enveloppé dans ses peliones, couverture de cheval. Cet abri m'a toujours porté bonheur depuis que je recherche ma fille, dit Orellana. Mais je ne sais pas du tout à qui doit aller ma gratitude. Le dieu qui est ici est indéchiffrable. » Et il lui montrait les bas-reliefs qui couvraient la pierre. Il représentait un être humain dont la tête était ornée de rayons allégoriques et dont chaque main tenait un sceptre différent. Alentour étaient rangées symétriquement des figures ayant un visage d'homme, les autres une tête de condor, toutes tenant également un sceptre et faisant face au centre.
« Oui, »
reprit entêté et tout pensif Orellana, Ceci ne ressemble en rien à ce que faisaient les Incas. C'est beaucoup plus sculptural, mais c'est aussi beaucoup plus ancien. Il y a eu des mondes sur ces rives avant les Incas qui ne sont que des sauvages qui volent les jeunes filles. Mais viens dans mon bateau, au-devant du soleil. Alors Raymond aperçut dans une petite crique à demi cachée par les arbres une pirogue en jonc dans laquelle Orellana eut au fait de dresser un mât et de hisser une voile de natte que gonfla aussitôt la brise propice. « Viens pêcher à la ligne, dit le vieillard, c'est le chemin du temple de la mort. » Raymond monta dans la nacelle de Totora, le bateau de jonc, et ils voguèrent sur les îles. Ils arrivèrent en vue de celles-ci vers le soir. Elles étaient à peine visibles. C'étaient les îles Saintes. Elles paraissaient flotter comme des ombres menaçantes au-dessus des eaux. Elles apparurent à Raymond comme des fantômes gardiens du temple de la mort. Ce soir-là, Orellana n'accosta point au rivage. Il immobilisa sa barque en jetant à l'eau une grosse pierre qu'une corde retenait, puis il rangea sa voile et donna à Raymond un bâton pour la pêche. L'autre ne comprenait pas. Le fou, qui pensait à tout, lui expliqua « On vient aux îles pour pêcher, car aux îles la pêche bénie du Dieu est plus fructueuse que partout ailleurs. Ne peux pas tu faire comme tout le monde ?» Et il lui montra autour d'eux des feux qui s'allumaient à la proue des petites barques, et dans ces barques les ombres immobiles des Indiens pêcheurs. « Ce sont les Indiens qui pêchent dans leurs canots de Totola, dit le vieillard. « Fais comme eux, ou alors dors et laisse-nous tranquille. Demain, tu auras un beau réveil. » Il le réveilla en effet un peu avant l'aurore. À l'approche de l'astre roi, les dernières étoiles s'éteignaient au ciel des tropiques. Sur les eaux profondes du lac, il n'y avait plus aucune lumière, et Raymond ne vit plus aucune ombre. Aucun bruit dans la nature, pas un souffle dans l'air. Soudain, du côté de l'Orient, la cime des monts s'embrasa. Un prodigieux incendie s'alluma derrière le rideau déchiré des cordillères, et les reflets sanglants de l'astre firent sortir de la nuit les ombres teintées de rose des îles Saintes. Quand il passe devant la principale d'entre ces îles, qui est l'île Titicaca, jamais les Indiens qui glissent sur les eaux dans leurs pirogues fragiles n'oublient de se prosterner ni de chanter en Aymara l'hymne des ancêtres au dieu du jour, car c'est de cette île qu'est sortie, il y a des années sans nombre, la souche des Incas dans la personne de Manco Capac et de Mama Cello, le mari et la femme, en même temps que le frère et la sœur, tous deux enfants du soleil. Ils sont partis de là pour fonder Cuzco et jeter les bases de leur empire sacré. Du large, on aperçoit sur la côte du Titicaca des ruines formidables, où amoncellement de pierres énormes superposées d'une façon inexplicable, et auxquelles la science n'a jamais pu fixer d'âge. Ce sont les bains, les palais et les temples des Incas, et ce qu'aperçut Raymond du fond de sa pirogue lui arracha un cri de surprise et le remplit d'une stupeur profonde. Rêvait-il? Était-il sous le coup de quelque hallucination déterminée par les angoisses et les atroces préoccupations de cette semaine maudite? Ses yeux lui faisaient-ils réellement voir ces choses que d'autres yeux avaient contemplées avec extase? Il y avait de cela des siècles, à l'aurore du monde incaïque. Mais au fur et à mesure que s'éclaircissaient les ombres de la nuit, et que l'île sacrée apparaissait dans tout son dessin terrestre au-dessus des eaux, ce ne furent point seulement des pierres mortes, des temples défunts, des palais abandonnés qui surgirent devant lui dans le premier rayonnement du jour. Tous les degrés cyclopéens, toutes ces marches du ciel étaient couvertes d'une foule immobile et silencieuse, tournée vers l'Orient en flammes. Et ce qui faisait croire au rêve, c'était bien cette immobilité et ce silence. Ils étaient là des milliers qui semblaient ne pas respirer dans l'attente de quelque événement mystérieux et sacré. Le disque du soleil est encore caché par les Andes prochaines, mais tout fait prévoir son essor victorieux. Le flanc des monts se pare de mille pierreries éblouissantes et les ruisseaux sont en feu. Le lac n'est plus qu'une immense glace rose qui reflète le rêve immobile des palais et des temples. Des vierges portant comme autant jadis les emblèmes religieux et les plus belles fleurs de la saison se pressent sous les portiques. Au sommet des tours allumées par l'aurore, les prêtres attendent le visage de leur Dieu. Soudain, il apparaît, il monte, il rayonne sur son empire et une immense acclamation le salue. Salut, soleil, roi des cieux, père des hommes! La terre tremble, les eaux frissonnent, le ciel est si ému de ce grand cri qui monte de l'île qu'il en laisse tomber les oiseaux étourdis. Salut, soleil, père de l'Inca! Les bras se tendent vers lui, les mains lourdes d'offrandes s'élèvent au-dessus des têtes et toutes les bouches chantent sa gloire. Reconnais-tu tes enfants? Es-tu toujours accompagné de l'âme innombrable des guerriers morts pour la patrie? Le cri de joie part de la multitude entière, accompagné de chants de triomphe et du tumulte des instruments barbares. Toutes ces fanfares sauvages éclatent de plus en plus, et à mesure que le disque brillant de l'astre se dresse à l'Orient et inonde de lumière ses adorateurs. Ô soleil, regarde ton empire! Après tant de siècles, vois les hommes qui habitent ces champs et ces montagnes. Tous les fronts sont tournés vers toi. Toutes les bouches sont ouvertes vers toi. Aujourd'hui comme autrefois, tes enfants s'enivrent de tes rayons. Les vierges ont levé leurs bras dorés et ont offert aux dieux la libation dans les vases sacrés remplis de la liqueur fermentée du maïs ou du maguey. Et les prêtres, à la tête des théories religieuses, ont entonné les hymnes rituels qui, après s'être levé vers les cieux, semble maintenant s'enfoncer dans la terre. Mais quel est ce miracle? Le rêve a disparu, s'est évanoui comme se dispersent sous le premier rayon du soleil les buées légères du matin. Raymond se frotte les yeux comme un enfant à son réveil. Mais où donc est cette foule qui peuplait tout à l'heure ce désert de pierre? Mais qui donc a crié vers le soleil? Maintenant que l'astre est haut dans les cieux et que les choses apparaissent avec leur forme coutumière, que ne peut plus habiller l'imagination, Raymond ne voit que ce qui est, des palais en ruine et la solitude. Mais Orellana fait glisser rapidement sa pirogue vers le rivage. Il aborde, il ordonne au jeune homme de sauter avec lui sur la grève, et quand ils approchent de la falaise, il lui fait signe d'écouter. La foule pieuse s'est enfoncée dans la terre, la falaise résonne de chants intérieurs. « Et maintenant, viens !» dit le vieillard. « Ils sont descendus vers le temple de la mort. » « Bon, mais nous y serons avant eux. » Regardez, c'est ici le temple de la mort. Ils entrent dans une grotte. Raymond n'a plus aucune volonté. Marie-Thérèse est perdue. Le baiser qu'il lui a envoyé est celui qui les unissait dans la mort, car le jeune homme compte bien ne point lui survivre. Quand il sera sûr qu'elle est morte, son tour à lui viendra. Il aurait voulu se tuer à ses côtés comme font les amoureux sur la tombe de la bien-aimée. On lui a dit qu'elle doit mourir dans le temple de la mort, alors il suit ce vieillard dont on a tué jadis la fille dans ce temple et qui a cherché ce temple 10 ans et qui prétend savoir maintenant où il se trouve. La grotte est profonde. Après avoir marché quelques instants sur le sable et les coquillages, le vieillard alluma une branche de résine. La flamme éclaire l'entrée d'un étroit couloir de nuit, mais avant de s'y introduire, Orellana a ramassé dans une excavation une chose qui attire l'attention de Raymond. Qu'est-ce que c'est? C'est une pioche. Vieillard, que comptes-tu faire avec cette pioche?
Je compte sauver ma fille, répond Orellana. Tu verras, tu verras. Cette fois, je ne laisserai pas ces brigands étouffés comme il y a 10 ans. Tu comprends? Il la mûre vivante. Eh bien, nous n'avons qu'à attendre qu'il soit parti et nous la délivrerons. As-tu compris? Bien compris, mais c'est tout à fait simple. Quand j'ai trouvé le temple de la mort et que je vis dans la muraille toutes les pierres qui recouvrent les épaules du soleil, je m'écriai: ça aurait pas été bien difficile de la délivrer si on avait été là. Mais alors il était trop tard. D'abord, je ne savais pas où elle était. Était-elle à droite, à gauche ou en face? Mais la prochaine fois, nous verrons bien. Nous verrons bien. Viens!
Raymond, qui avait écouté la parole d'Orellana, tremblait. Était-il possible que ce fût si simple que cela de la sauver? Les fous, avec leurs idées fixes, ont quelquefois plus raison que tous les autres hommes avec leur raison. Et il suivait le vieillard, hâtif et fiévreux, dans le couloir de la nuit illuminé par la torche au point tremblant d'Orellana. Mais Raymond avait pris la pioche. On n'entendait plus rien que leurs pas sur le roc. La terre dans laquelle ils étaient entrés et dans laquelle ils descendaient avait étouffé les champs comme elle allait peut-être les étouffer tout à l'heure. Ce couloir avait été creusé dans le roc et aboutissait dans une petite salle carrée où avait dû se trouver la sépulture des prêtres et des hauts dignitaires, comme on voit dans les pyramides et hypogées d'Égypte. Dans la dernière de ces salles, Orellana éteignit sa torche et se mit à genoux. On ne pouvait en effet se tenir debout dans l'étroit boyau dans lequel il se glissa, suivi de Raymond. Mais bientôt ils purent se relever, et ils étaient dans une niche de pierre moins obscure que ce couloir qu'ils venaient de traverser. Orellana arrêta Raymond et lui dit:
c'est ici!
Les yeux du jeune homme s'habituaient déjà aux ténèbres moins opaques. D'où venait donc cette légère lueur diffuse, grâce à laquelle il entrevoyait des formes, des angles, des colonnes? Il ne put d'abord s'en rendre compte, mais il put définir assez facilement la position qu'ils occupaient dans un renfoncement de la pierre, situé à plusieurs pieds au-dessus du sol, d'une vaste salle dont il ne percevait pas encore les limites.
« Le temple de la mort !» murmura Orellana. « Écoutez, le temple de la mort !»
En effet, le bruit lointain des chants parvenait maintenant jusqu'à leurs oreilles. On eût dit un grondement rythmique de la terre. Et soudain, la lumière se fit, complète, et ils en furent éblouis et instinctivement, ils se rejetèrent en arrière. Au-dessus d'eux, au sommet et au centre de la prodigieuse salle souterraine, une pierre venait de se déplacer, ouvrant un orifice assez large par lequel la lumière dorée entrait à flots. Il y avait là, creusé dans la voûte, une espèce de cône tronqué dont le sommet était à l'extrémité supérieure, de telle sorte que la lumière du soleil glissait obliquement le long de ses parois et allait rayonner tout le long des murs, promenant son éclat tour à tour sur chacune des pierres qui formaient l'enceinte intérieure de ce temple mystérieux. Sur les dalles, sur les autels, sur les marches, dans les niches, partout, resplendissait l'or dans une magnificence incomparable, des plaques d'or liées les unes aux autres par une sorte de ciment merveilleux dans lequel était entré de l'or liquide. Ce temple caché était à la lèse une mine d'or. Il formait un immense cercle. Sur la partie orientale de la muraille était représentée l'image de la divinité. C'était une figure humaine, centre d'innombrables rayons de lumière qui paraissaient en jaillir de tous côtés. Ainsi, chez nous, on persifie quelquefois, on personnifie quelquefois le soleil. Cette figure était gravée sur une plaque d'or massif de dimensions énormes, parsemée d'une multitude d'émeraudes et de pierres précieuses. Les rayons du soleil et le vent venaient la frapper directement, illuminant tout le temple d'une clarté qui paraissait surnaturelle et que réfléchissaient de toutes parts les ornements d'or dont le mur et la voûte étaient incrustés. L'or, dans le langage figuré du peuple, était les larmes versées par le soleil, et toutes les parties de l'intérieur du temple étincelaient de plaques polies et de têtes de clous du précieux métal. Les corniches qui entouraient les murs du sanctuaire étaient de la même matière, et un large cordon ou frise d'or incrusté dans la pierre enveloppait toute la salle. De l'endroit où se trouvaient Raymond et Orellana, on apercevait plusieurs chapelles disposées symétriquement autour de la grande pièce centrale. L'une d'elles était consacrée à la lune, divinité qui tenait le second rang dans la vénération publique comme mère des Incas. Son effigie était représentée de la même manière que celle du soleil sur une plaque colossale, mais cette plaque était d'argent, comme il convenait à la lueur pâle et argentée de la douce planète. Une autre chapelle était dédiée aux armées du ciel, qui sont les étoiles, cour brillante de la sœur du soleil. Une autre était consacrée au terrible ministre de ses vengeances, le tonnerre et l'éclair, une autre à l'arc-en-ciel, et dans ces chapelles, tout ce qui n'était pas en argent était en or, en or, en or. Le temple de la mort représentait à peu près toutes les dispositions de l'antique temple du soleil de Cuzco, et il ne devait certainement d'avoir traversé les siècles avec toute sa magnificence, qu'à la montagne et au lac qui le protégeaient, qu'au mystère dont ses prêtres n'ont cessé de l'entourer, car combien en ont entendu parler qui ne l'ont jamais vu, même parmi ces Indiens, dont la piété et la prière naviguent encore aujourd'hui entre les cérémonies de la religion nouvelle et les rites des ancêtres. Les couloirs de la nuit en sont bien gardés. La foule n'y fut jamais admise, et en dehors des grands dignitaires et des victimes qui y viennent, elle, pour n'en point sortir, après avoir contemplé la figure de la mort, il fallait le prodigieux hasard qui avait servi Raymond et Orellana pour pénétrer dans cette enceinte par un étroit boyau oublié depuis des générations. Quand ses yeux, peu à peu, se furent accoutumés à cet éclat, comme tout à l'heure ils s'étaient accoutumés à l'obscurité, Raymond distingua tous les détails du temple. Son regard fut attiré par l'autel central élevé de plusieurs marches et sur lequel étaient disposées les coupes d'or remplies de graines de maïs, les encensoirs pour les parfums, les aiguières destinées à recevoir le sang du sacrifice et le grand couteau d'or dans le plat d'or. Le Dieu assis dans sa lumière. Le regard de Raymond descend encore, et il aperçoit alors, rampant sur les dalles qu'il avait crues désertes, glissant d'un autel à l'autre et de chapelle en chapelle, actifs à la besogne religieuse et finissant de tout préparer pour la cérémonie, les trois gnomes, les trois gardiens du temple aux trois crânes hideux. La casquette crâne à qui les mamaconas sont donnés dès son plus jeune âge par la déformation de sa tête, le goût du sang, presse les deux autres et de temps à autre saute sur les degrés de l'autel, se hausse jusqu'au plateau d'or et regarde le couteau. Derrière l'autel et au-dessus de l'autel, il y a une sorte de pyramide d'or au sommet de laquelle se trouve un trône d'or.
Le trône du roi, dit Orellana.
Des deux côtés de l'autel et devant l'autel, il y a trois autres pyramides assez hautes, mais qui ne sont pas en or. Et il semble bien que ce sont les seules choses du temple qui ne soient pas en or. Ce sont des pyramides de bois.
Les trois bûchers, dit Orellana.
Les bûchers, mais est-ce qu'on va la brûler ? Demande la voix expirante de Raymond.
Non, 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 elle va être pure et vive. Elle, c'est l'épouse du soleil. Pourquoi veux-tu qu'on brûle l'épouse du soleil? Cela ne se fait pas. T'as donc jamais parlé de ces choses avec un simple petit enfant Aymara? Un simple petit enfant Aymara, c'est cela. Les petits enfants ne voient pas le temple de la mort, tant qu'ils n'y doivent pas mourir, mais tout le peuple Aymara et les petits-enfants du peuple Aymara savent ce qui s'y passe.
Tais-toi donc et regarde, cela vaudra mieux ainsi.
Brûler l'épouse du soleil, mais c'est inouï. Brûler ma fille, et tu crois que je laisserai s'accomplir une horreur pareille?
Pour qui me prends-tu et pourquoi aurais-je emporté ma pioche? Je te le demande.
Tu réponds pas, oh, tu fais bien.
Regarde tout autour de toi, sur les murs du temple. Entre les plaques d'or, tu distingues des plaques de granit rouge.
C'est le porphyre avec lequel on ferme les tombes des épouses du soleil murées vivantes.
Compte ces plaques de porphyre, compte tout alentour, tout autour. Elles sont 100 dans la muraille, 100, pas une de plus, pas une de moins.
Oh, je suis venu souvent ici, tout seul, reprit le pauvre fou, en soupirant.
Oui, tout seul, depuis que j'ai découvert les couloirs de la nuit un matin que je me réveillais dans la grotte au bord du lac.
Eh bien, je te dis qu'elles sont 100.
Oh, si j'avais su dans laquelle de ces 100 tombes de porphyre on avait enfermé ma fille vivante, tu penses bien que je l'aurais délivrée. Mais comment savoir impossible?
Rien ne distingue ces tombes l'une de l'autre. Ce sont des plaques de porphyre toutes pareilles.
Cependant, ils n'ont pas pensé qu'aujourd'hui je serais là avec ma pioche. Je verrai bien cette fois où ils mettront ma fille. Et quand ils seront repartis, eh bien, j'aurai tout fait de la délivrer.
Mais elle sera peut-être déjà morte quand tu la délivreras, morte étouffée, dit Raymond, qui étouffait, mais qui, dans son atroce agonie, essayait de percevoir dans la bizarre conversation du vieillard et dans ce qu'il disait des tombes une lueur d'espoir.
Non, non, elle n'aura pas le temps d'étouffer.
La niche est profonde comme un placard. Elle peut s'asseoir dedans.
Tu sais bien que nos morts s'assoient dans nos tombes comme chez eux. Elle peut respirer là-dedans au moins pendant 1 heure, peut-être pendant 2 heures. Et moi, je l'aurai délivrée en 10 minutes, c'est sûr.
Raymond, maintenant, ne quittait plus des yeux ces plaques de porphyre derrière lesquelles dormaient les épaules du soleil.
Cette disposition funèbre des tombes n'était point faite pour l'étonner, car dans les panthéons, dans les cimetières péruviens, il avait vu des murailles pleines de morts. Et encore actuellement, on les emmure ainsi, mais morts et non vivants, certainement autant que possible. Et les plaques qui les recouvrent sont disposées en bel ordre, comme les rayons d'une bibliothèque. Mais si elles sont 100 dans leurs 100 tombes, dit Raymond, il n'y a plus de place pour personne. Oh, ces bûchers m'épouvantent. Es-tu sûr qu'on ne la brûlera pas? Mais oui, j'en suis sûr, affirme le vieillard agacé. Sois donc tranquille. Les bûchers sont pour les deux mamas connasses qui doivent mourir et précéder l'épouse dans les demeures enchantées du soleil. Mais il y a 3 bûchers, riposta Raymond qui se sentait devenir fou. Ben justement, le 3e bûcher qui est devant l'autel est pour l'épouse du soleil, la plus ancienne que l'on va désemmurer pour mettre ma fille à sa place. Et cette vieille épouse, bien entendu, on va la brûler. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils en fassent? Ben, tu vois bien alors qu'on brûle les épouses du soleil, répond Raymond, qui délire autour de cette idée du feu contre lequel il ne pourrait rien si c'était par le feu que Marie-Thérèse devait mourir, tandis que l'emmurement tel que l'avait départ, elle-là, lui laissait quelque espoir. Mais je t'ai dit, répliqua encore le vieillard, cette fois tout à fait fâché, qu'il y a la 100 épouse du soleil auquel on en offre une tous les 10 ans. C'est du côté, oui ou non? Eh bien, la plus ancienne, qu'on lui reprend tous les 10 ans pour mettre à sa place une ancienne, la plus ancienne a 1000 ans. On peut bien brûler une épouse de 1000 ans. Le soleil en a assez au bout de 1000 ans. Et la preuve, c'est qu'il la brûle lui-même. Ouais, c'est le soleil qui allume les 3 bûchers. Sans cela, personne ne se le permettrait. C'est le soleil en personne, tu vas voir. Écoute, les voilà. Les chants se rapprochaient, bientôt les prêtres apparurent. En effet, le lointain grondement des chants se percevait, et bientôt les nobles, reconnaissables à leurs bijoux d'oreilles, pendants et poinçons que les seuls pouvaient porter des descendants de l'Inca, firent leur entrée. Ils étaient vêtus d'une sorte de chemise rouge sans manches, et portaient chacun une oriflamme, sur laquelle était brodé l'arc-en-ciel en couleurs différentes, qui constituait les armoiries de chaque maison. Puis ce fut une troupe de jeunes filles qui balançaient en marchant des guirlandes de la saison et dont la chevelure s'ornait de couronnes fleuries. C'étaient les filles des nobles qui devaient jadis entrer dans les couvents des Vierges du Soleil, puis s'offrir en sacrifice aux dieux ou être choisies pour épouse par l'Inca. Elles étaient suivies de leurs frères adultes, un groupe de jeunes gens habillés de chemises blanches, sur lequel était brodée une croix, comme c'était la coutume pour les fils de nobles qui allaient être armés chevaliers. Puis s'avancèrent les Curacas, qui étaient les caciques ou descendants de caciques, chefs des nations soumises par l'Inca et des tribus qui avaient prêté le serment de fidélité à l'Inca. Cela était habillé de chemises multicolores sans broderie d'or. Il s'était avancé jusqu'au milieu du temple, et tout à coup, comme les chants cessèrent, ils se retournèrent et tout le cortège se retourna vers la porte par laquelle il était entré. Un étrange silence avait succédé à l'espèce de bourdonnement rythmé que faisait le chant sous la terre, et Raymond, dont la terrible angoisse grandissait de minute en minute, se demandait ce qui allait se passer, quand un cri affreux, atroce, une clameur désespérée d'enfant que l'on égorge, se fit entendre jusqu'au fond du temple. Les cheveux de Raymond se dressèrent sur son front. « Oh, qu'est-ce que ceci ? » demanda-t-il d'une voix râlante. « Ceci, lui répondit Orellana, ne nous regarde pas. C'est l'enfant que l'on sacrifie à l'entrée du temple dans la chapelle noire de Pacahuamac, le dieu pur puissant. « Oh, les misérables !» s'écria Raymond. Il était prêt à bondir sur eux, à commettre quelque folie, qu'Orellana le retint. « Si tu veux sauver avec moi l'épouse du soleil, ne dis rien. Ne fais pas un geste ou alors tout est perdu. Si tu ne sens pas la force de cela, ben va-t'en. » Le jeune homme avait pris le poignet du vieillard et lui meurtrissait les chairs. « Ben, tu me fais mal, » dit Orellana. « Il faut te tenir tranquille, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. »« Ah, oh, le malheureux petit, » gémit Raymond. « C'est Cristobal qu'ils ont égorgé. » « Oh, qu'ils en finissent donc une bonne fois et qu'ils nous tuent tous, voudraient être morts. »« Tu devrais avoir honte, mon fils, de parler ainsi, » répliqua le fou, qui était extraordinairement calme. « Quand on a des nerfs de femme, on pénètre point dans le temple de la mort. » Et maintenant, on n'entendait plus rien. Les nobles, les jeunes gens et les couracas se retournèrent et continuèrent leur marche en silence, faisant le tour du temple. Derrière eux arrivèrent les Ametas, les sages, qui instruisent les enfants de l'Inca. Puis ce furent les punches rouges qui entourèrent l'autel comme une garde sacrée. Ni les uns ni les autres n'avaient d'armes visibles. Défilèrent ensuite les hauts dignitaires de la maison royale, vêtus du blanc chana, qui est une chemise d'écorce légère, très ample et peinte des plus riches couleurs. Ces dignitaires portaient chacun un emblème barbare à gueule ouverte, destiné à faire peur aux mauvais esprits qui rôdent toujours autour de la maison. Dans le moment que Raymond croyait voir apparaître Marie-Thérèse, il vit s'avancer une grande litière portée par des nobles et sur laquelle était assis un personnage qu'il ne reconnut pas tout d'abord. Sa robe, ses sandales paraissaient toutes en or, ses oreilles étaient alourdies par d'énormes, de prodigieux anneaux d'or qui tombaient jusqu'à ses épaules. Autour de sa tête, il portait le lianture royal, turban du tissu le plus délicat, roulé en plis, de couleurs vives et diverses, et orné des deux plumes de colacuenque. Ses tempes s'entouraient encore du borla dont la frange écarlate, mêlée d'or, lui couvrait en partie les yeux. Il descendit de sa litière, soutenu par deux pages, et gravit les degrés de la pyramide d'or, pendant que toute l'assistance se mettait à genoux et courbait la tête. C'était le roi. Quand il eut atteint le sommet de la pyramide, il s'assit dans son fauteuil en disant à tous « Dios adicturata », qui est le bonjour que l'on souhaite en langue aymara. Alors tous se relevèrent, et dès lors, il ne bougea plus. Raymond le voyait maintenant de face. Il le reconnut. « Le commis de la banque franco-belge » murmura-t-il. C'était en effet Oviedo et Aina Cruntu, roi des Incas. L'assemblée répéta trois fois, toujours en aymara, le Dieu est assis dans sa lumière. Le Dieu est assis dans sa lumière. Le Dieu est assis dans sa lumière. Et aussitôt on entendit le chant des flûtes. C'étaient les joueurs de Quena qui soufflaient dans leurs os de mort et qui précédaient le cortège religieux. D'abord les quatre veilleurs du sacrifice qui cette fois pouvaient relever la tête car leurs bonnets à oreilles ne cachaient aucun subterfuge. puis un autre punch rouge, dont les mains portaient quantité de cordelettes à deux de différentes couleurs. Raymond reconnut le moine prêcheur de Caramarca. C'était le gardien des Kipos, transmetteur de la tradition, le chef vénéré du Kipukamayas, celui qui sait l'histoire. Derrière lui, devant un groupe de servants, venait Huascar dans la grande tunique safran du grand prêtre. Le grand prêtre, appelé Villas Vinu, apparaissait sous un dais porté par quatre couracas. Le dais était formé de plumes éclatantes. Tous s'inclinaient au passage de Huascar. L'Inca seul était au-dessus de lui. Raymond vit sa figure tragique, ses yeux sombres, et il essaya de voir si ses mains n'étaient point déjà rouges du sacrifice. Et comme il passait près de lui, sous lui, il pensa une seconde à le tuer là comme un chien, à l'abattre comme une bête malfaisante à coups de revolver au milieu de son cortège, de ses prêtres, de tous ses incas. Mais les mamaconas survenaient en chantant. Il releva la tête, cherchant Marie-Thérèse. Il ne la vit point, tout d'abord. Il fallut attendre que les mamaconas eussent fini le jeu des voiles noirs dont elles l'entouraient. Alors elles s'écartèrent, et d'abord les deux femmes qui allaient mourir s'avancèrent, le visage découvert, et montrant à tous des sourires, une joie presque enfantine. Les Quenas cessèrent leur chant, et dans le silence solennel de tous, la seconde litière apparut, portant deux statues d'or assises. C'était le roi défunt Huayna Capac et Marie-Thérèse sur le double fauteuil d'or. Derrière eux venaient, fermant la marche, les trois gnomes à crâne hideux, les trois gardiens du temple qui avaient un instant disparu et qui revenaient avec Marie-Thérèse, car on sait que s'ils avaient seuls le droit avec les mamaconas de toucher à l'épouse du soleil. Raymond, dont le souffle était suspendu, avait espéré que la lumière de Marie-Thérèse passerait près de lui comme avait passé le dais de Huascar. Il avait espéré cela pour savoir si, dès maintenant, sa fiancée n'était point morte. Elle ne paraissait pas plus vivante que le mort. Et elle n'avait plus le petit Cristobal dans ses bras. Ce que les joyaux d'or qui la couvraient laissaient voir de son visage appartenait déjà à la tombe. Les trépassés n'ont point plus de pâleur au front ni aux joues. Et les paupières étaient immobiles, comme lorsqu'on les a fermées, et que la piété des proches parents les a rabaissées sur les pupilles sans regard pour toujours. Ah, si elle était passée près de lui, Raymond aurait essayé une fois encore de soulever ces paupières-là avec un mot tombé du ciel. Mais le double fauteuil d'or fut déposé tout de suite entre l'autel et les trois bûchers. Huascar était assis à droite de l'autel et le chef des Kipukamayas à la gauche. Les mamaconas en couvraient les degrés dans une harmonie funèbre. Seuls les deux qui allaient mourir et qui avaient quitté leur voile noire pour des robes de fête aux tissus éclatants et qui avaient des fleurs dans les cheveux était étendu aux pieds de Marie-Thérèse. Les nobles et les couracas s'étaient rangés tout alentour du temple, les jeunes gens et les jeunes vierges au milieu d'eux. Les trois gardiens du temple étaient allés fermer les portes. Le peuple, qui n'assiste jamais à ces mystères, avait été laissé au loin, en prière, dans les couloirs de la nuit, qui sont innombrables, et dont il ignore les détours, dans l'attente des prêtres qui, après la cérémonie, devaient ramener les pèlerins à la lumière du jour.